Bonjour mes frères et mes sœurs. Dans la Bible, il est question des prophètes. Mais qui sont les prophètes? Y a-t-il des prophètes aujourd'hui? Dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs prophètes. En fait, il y a 3 grands prophètes, comme on dit, et ensuite 12 prophètes mineurs, ou bien petits prophètes, comme on appelle. Mais quelle est la différence entre les grands prophètes et les prophètes mineurs? Et pourquoi, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas proprement parlé des prophètes? En fait, qu'est-ce qu'un prophète? Selon la Bible, un prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir ou quelque chose sous l'inspiration divine. Et si la chose n'arrive pas, c'est que ce n'est pas un vrai prophète, c'est un vrai prophète. En fait, aujourd'hui, vous avez toutes sortes de faux prophètes. Vous avez des gens qui prédisent l'avenir à leur façon, parce que ce monde est en pleine confusion. Une chose est certaine, si vous croyez à l'Ancien Testament, vous devez croire à l'existence des prophètes. Si vous ne croyez pas à l'Ancien Testament, dans ce cas-là, le mot prophète n'a pas de sens pour vous. Les 3 prophètes, les grands prophètes dont je vous parle, les 3 n'auraient aucun sens. Mais pourquoi, d'une façon générale, les gens rejettent l'Ancien Testament? Parce qu'ils pensent que les lois de Dieu ont été abolies, ou alors que Dieu permet aujourd'hui à tout le monde de faire ce que les gens veulent sans les punir. Ce faisant, ils rejettent l'Ancien Testament, et en rejetant l'Ancien Testament, ils rejettent les prophéties, et les prophéties qui sont contenues dans l'Ancien Testament, autrement dit, les prophètes. Et pourtant, mes frères et mes sœurs, nous qui sommes dans l'Église de Dieu, nous savons ces choses. Je parle de cela aujourd'hui d'une façon générale, car il y a beaucoup de gens qui m'écoutent par Internet. Le fait est que si, soyons francs, si nous rejetons l'Ancien Testament, nous rejetons l'existence des prophètes. Et si nous rejetons l'existence des prophètes, dans ce cas-là, nous rejetons l'existence du Christ. Car chacun d'eux a parlé du Christ. L'un d'eux, principalement, Ésaïe, a parlé du Christ, de la naissance du Christ, du lieu de la naissance du Christ, des choses que le Christ ferait. Maintenant, parlons davantage des prophètes. Dieu a prédit l'avenir. Dieu sait pourquoi nous sommes créés. Dieu a confié aux prophètes une mission qui est toujours la même, mais qui est présentée d'une façon différente selon les prophètes. Je vous ai dit qu'il y avait 3 grands prophètes dans la Bible, Ésaïe et Jérémie et Ézéchiel, d'accord? Mais quelle est la différence entre ces 3? Eh bien, savez-vous, il n'y a pas de différence. Chacun décrit à sa façon, sous l'inspiration divine, les informations, les renseignements, les commandements, les ordres que Dieu leur donne. Et la différence entre ces 3 grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et les autres prophètes, les 12 mineurs, quelle est la différence? Il n'y a pas grande différence, sauf que, voyez-vous, ils décrivent dans une partie seulement la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler surtout d'Ésaïe. Qui était-ce, Ésaïe? La plupart des théologiens qui croient à la Bible, qui parlent de la Bible, comparent le livre d'Ésaïe, je dirais, aux 3 évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Autrement dit, à leur avis, ce que Ésaïe a écrit, c'est une sorte de résumé de la vie du Christ d'après Matthieu, Marc et Luc. Autrement dit, si vous prenez l'Ancien Testament, le thème principal sera développé par Ésaïe. Si vous prenez le Nouveau Testament, le thème principal du Christ, de sa biographie, sera développé dans Matthieu, Marc et Luc. Ça, c'est en parenthèse. Mais ce qui est important avec Ésaïe, voyez-vous, il donne des précisions. Il donne des précisions sur non seulement sur le Christ, non seulement sur ce que le Christ allait souffrir, non seulement ce qui passera en l'avenir, mais il parle, Ésaïe parle dans sa Bible depuis le commencement de l'univers jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment du salut du monde, pour ainsi dire, ou de l'humanité. C'est une, évidemment, Ésaïe parle aussi des promesses de Dieu. Il parle aussi de ce qui va se passer et donne une liste des commandements beaucoup plus que les autres prophètes. Autrement dit, Ésaïe est un prophète majeur dans ce sens que si vous le rejetez, vous ne comprenez pas le Nouveau Testament et non pas, évidemment, l'Ancien Testament. Je parlais aujourd'hui, il n'est pas possible de parler évidemment de livre d'Ésaïe qui se compose de 66 chapitres. Aujourd'hui, je prendrai un seul chapitre de livre d'Ésaïe. Vous direz, tiens, pourquoi un seul? Parce que ce seul chapitre d'Ésaïe nous donne aujourd'hui une meilleure idée de ce que Ésaïe a prophétisé, de ce qu'il a dit et comment il décrit, si vous le lisez comme il faut, il décrit la situation actuelle du monde. Eh oui, aujourd'hui, si vous prenez le livre d'Ésaïe, vous verrez qu'il décrit exactement comment les choses allaient se passer juste avant l'avènement, le deuxième avènement du Christ. Disons d'abord que le nom d'Ésaïe signifie « salut », le salut de l'Éternel. Là, encore voyez-vous, dès que j'aille un peu plus loin, je vous poserai la question, c'est quoi le salut de l'Éternel? Eh bien, une fois encore, la réponse est simple. Nous sommes nés non pas pour rester des êtres physiques, mais pour devenir un jour des êtres spirituels. C'est ça le salut. Autrement dit, le plan divin sur cette terre, c'est que nous autres humains, nous puissions devenir, en fin de compte, lors de la résurrection des morts, retour du Christ, des êtres spirituels. Ça, c'est le plan de salut de Dieu. Certains d'entre nous réussissent d'autre part. Certains d'entre nous sont appelés en cette époque pour y arriver d'autre part. Mais c'est intéressant car, voyez-vous, Ésaïe a prophétisé sous quatre règnes en ce qui concerne les rois. Et sous ces quatre règnes, il a parlé toujours de la même chose, allant de 740 à 680, en ce qui concerne donc les prophéties. Ceux qui ne connaissent pas la Bible, en quelque sorte, ou bien le but de la vie que je viens de vous décrire en quelques mots, ne comprennent pas que Dieu contrôle tout. Dieu est en charge de tout. Ce qui se passe aujourd'hui se passe par la permission divine. Ça, c'est important. Dieu permet toutes choses, mais Dieu ne commande pas toutes choses. Il laisse l'humanité agir à sa guise. Tout ce qui se passe dans votre vie, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais Dieu peut permettre. Dieu le permet. Ne blâmez donc pas Dieu en disant que Dieu me fait ceci ou cela, bien Dieu ne m'aide pas. Dieu vous aidera toujours, Dieu vous aide. Et il vous aidera toujours si vraiment vous faites sa volonté. En fait, c'est ça le sens des écrits des prophètes et le sens surtout des écrits d'Ésaïe. Ésaïe vous dit exactement ce que vous devez faire, vous, moi, nous tous, pour arriver au but. Il nous montre exactement la façon d'observer les lois de Dieu. Il nous montre exactement quels sont, en gros, le commandement de Dieu, et même, ça peut vous étonner, comment Israël serait puni et a été puni. Voilà, maintenant je m'arrête encore quelques instants pour faire un petit détour. Israël, c'est quoi? Israël, c'est qui? D'une façon générale, les gens ne font pas de différence entre Israël et Juif. Là encore, c'est là, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Bible ne comprennent pas la Bible. Autrement dit, si les prophètes ont parlé, et ils ont parlé d'Israël, ils n'ont pas parlé seulement des Juifs, pas du tout. Les Juifs ne sont qu'une partie des Israélites. Nous sommes dans l'Église, nous comprenons ces choses, parce que nous savons fort bien qu'il y a une grande différence entre Israël et Juifs. Je vous ai dit par le passé, par exemple, que les Parisiens, d'une façon générale, sont Français, mais tous les Français ne sont pas Parisiens. De la même façon, les Juifs sont des Israélites, mais tous les Israélites ne sont pas Juifs. Vous direz, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un mystère. Mais laissez-moi vous montrer, pour nous tous, ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 35, verset 22. Là, voyez-vous, c'est ainsi que vous comprenez la Bible. Ne séparez pas les versets bibliques des uns des autres. Prenez la Bible dans son ensemble. Tout ce que Dieu dit dans la Bible, par les prophètes certainement, et aussi par les autres écrits, tout ce que Dieu dit dans la Bible constitue la vérité. Jacob était le fils d'Abraham. D'Abraham était un prophète, était appelé de Dieu, et nous sommes aujourd'hui bénis d'une façon générale, car nous sommes des descendants d'Abraham, et parce que Dieu a béni Abraham, parce qu'Abraham a obéi à Dieu. Notez-le, Genèse 35, verset 22, les fils de Jacob, voyez-vous, les fils de Jacob au pluriel, étaient au nombre de 12. Automatiquement, je n'ai pas besoin de deviner qui sont les Juifs, parce que la Bible dit, il dit, premièrement, fils de Ruben, premier-né de Jacob. Donc, voyez-vous, Ruben était le premier-né, c'était le premier-né de Jacob. Ensuite, vous avez Joseph et Benjamin, verset 24. Ensuite, vous avez Dan et Naphtali. Ce sont toujours là, voyez-vous, les fils de Jacob. Pas un seul, mais les fils de Jacob. Ensuite, vous avez, au verset 26, fils de Zelpa, Léa, Gad et Azer. Et ensuite, la Bible dit, au verset 10, ce sont là les fils de Jacob. Judas était l'un des fils de Jacob. Judas n'était pas le seul fils de Jacob. Alors que Jacob avait donc 12 fils et 12 descendants, Judas n'en est qu'un seul. Aujourd'hui, je répète, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas, ou qui m'écoutent, mettons, sans savoir qui nous sommes, les Juifs ne représentent qu'une seule tribu descendant d'un des fils de Jacob, c'est-à-dire de Judas. Une fois que vous comprenez ceci, vous comprendrez beaucoup plus facilement la Bible. Les Français, par exemple, sont des Israélites. Les Anglais, les Américains, les Belges, les Suisses, les Canadiens, ainsi de suite, ce sont des descendants de ce que nous appelons des fils de Jacob. Si vous voulez des renseignements, nous pouvons vous en fournir. Continuons. Revenons à Ésaïe. Ésaïe a parlé justement dans son livre de tout ce qui va se passer, non pas seulement à l'heure actuelle, mais de tout ce qui s'est passé même auparavant et de ce qui va se passer même après le retour du Christ. Autrement dit, il parle de la création de l'univers jusqu'à la réalisation du plan de salut divin. Voilà pourquoi son nom signifie le salut. Continuons. De tous les prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe a eu la vision la plus accessible. Aucun d'eux ne parle, ne donne assez de place dans ses prophéties du plan de rédemption du Christ, conçu par le Christ. Aucun d'eux, des autres prophètes, ne parle avec autant de précision de la vie du Christ et de la façon dont les hommes allaient le traiter. Aucun d'eux ne parle avec autant de précision de la différence entre, pour ainsi dire, les Juifs et les Israélites d'une façon générale. Alors, maintenant que nous parlons des Juifs et des Israélites, parlons et voyons comment Ésaïe a développé son thème. Il a développé son thème sur le sens, sur la base même que Jacob avait 12 fils, et ces 12 fils constituaient ensemble les Israélites, et les descendants d'Israélites, qui sont aujourd'hui donc les nations modernes dont je vous ai cité quelques-unes, mais les Israélites, en fin de compte, avec le temps, qui ont été les descendants des tribus d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu les avait bénis, Dieu les avait guidés, Dieu les protégeait, et ils se sont détournés de Dieu. Et Dieu a permis que les Israélites, je dis bien les Israélites, et non pas seulement les Juifs, donc qu'ils soient amenés en captivité. D'après la Bible, prenez par exemple Exode chapitre 2, verset 23, d'après la Bible, dis-je, les Israélites, les 12 tribus, étaient amenés en captivité en Égypte. Alors là, alors que Dieu était auparavant leur Dieu, là ils se sont détournés de Dieu, puis ensuite ils ont souffert, et en fin de compte, ils se sont tournés une fois encore vers Dieu. Notez-le, Exode chapitre 2, verset 23. « Longtemps après, dit-il, le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient sous la servitude des Égyptiens et poussaient des cris. Ces cris, les cris qu'ils arrachaient donc, montèrent jusqu'à Dieu. » Verset 23. Alors, voilà maintenant le commencement de l'histoire, si vous voulez, du salut, du plan de salut des Israélites. Dieu a entendu les gémissements de son peuple, qui était en captivité en Égypte. Les 12 tribus, les Juifs en même temps que les autres fils de Jacob. Dieu entendit, verset 24, leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, c'est intéressant, voyez-vous. Dieu a toujours compassion lorsque vous vous tournez vers lui. Mais il avait dès le commencement avec Abraham une alliance parce qu'Abraham avait obéi à Dieu. Abraham avait fait ce que Dieu lui avait dit. Et Dieu a dit, je te bénirai toi et tes descendants. Voilà l'alliance qu'il avait faite. Ici, lorsque les Israélites se tournent vers lui, vers Dieu, Dieu se souvient de son alliance avec Abraham. Dieu regarda, verset 25, Exode 2, les enfants d'Israël, et il en eut compassion. Moi, j'aime ce mot, compassion. C'est un mot qui exprime les sentiments nobles. Dieu est toujours plein de compassion envers tout le monde. Si vous vous tournez vers Dieu d'un cœur honnête, et si vous demandez pardon à cause des péchés que vous avez commis, Dieu vous pardonnera toujours. Autrement dit, Dieu aura compassion de vous. Dans ce cas-ci, voyez-vous, Dieu a eu compassion de son peuple. Et cela, vous savez ce que cela signifie? Tout un peuple emmené en captivité en Égypte, Dieu a compassion, Dieu les fait sortir d'Égypte. Et là, je ne vais pas entrer dans les détails, Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte par des miracles fantastiques, 10 miracles. Autrement dit, le peuple n'avait plus aucune raison de dire qu'il ne croit pas au miracle de Dieu, ou bien que Dieu ne les a pas aidés parce que Dieu les a aidés. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là maintenant que la tragédie commence. Voyez-vous, lorsque Dieu vous pardonne, là, vous devez comprendre que ce pardon divin n'est pas une permission pour vous, pour aller de l'avant et pour répéter vos péchés. C'est là précisément la faute. Beaucoup de gens, voyez-vous, lorsque Dieu leur pardonne, ils prennent ce pardon comme un signe comme quoi ils peuvent continuer et répéter leurs péchés parce qu'ils ont été pardonnés, ou encore parce que pour eux, le pardon signifie le pardon d'un péché que vous répétez volontairement ou involontairement. Autrement dit, non, Le pardon est lorsque vous vous repentez de vos péchés. Ce sont des choses que nous connaissons, nous savons, nous autres, en tant que membres de l'Église. Mais le fait est que même nous, en tant que membres de l'Église, parfois, nous fermons les yeux devant ces réalités, je dirais, fantastiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu se souvient de son peuple. D'abord, laissez-moi, si vous citez Genèse 26, versets 4 à 5. Vous voyez comment Dieu décrit sa promesse ou bien son alliance avec Abraham. Il dit parce que Abraham a obéi, Genèse 26, 4, à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Notez, l'Ancien Testament est plein de ces commandements de Dieu, des lois, des ordonnances, des statuts. Donc, si vous les rejetez, il n'y a pas grand-chose qui reste. Voilà pourquoi l'Ancien Testament ne peut pas être distingué du Nouveau Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament vont main dans la main, pour ainsi dire. Donc, Dieu s'est souvenu de sa promesse à Abraham et dit donc, a eu compassion de son peuple. Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, c'est ça, malheureusement, l'histoire de l'humanité. Voulez-vous savoir ce que c'est que l'histoire de l'humanité? C'est l'histoire de désobéissance. Adam, le premier homme, a désobéi à Dieu. Les Israélites, la première nation, pour ainsi dire, que Dieu s'est choisie, se sont détournés de Dieu. Aujourd'hui, nous nous détournons de Dieu. Voilà l'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité. Dieu avait promis, je répète, à Abraham et à ses descendants de multiplier leurs descendants, de leur donner tout ce qui est bon sur cette terre. Je vous ai cité auparavant, je vous cite encore, prenez par exemple Deutéronome 28. C'est fantastique les bénédictions que Dieu promet dans les 14 premiers versets. Tout ce que Dieu fera pour son peuple, c'est son peuple. Et tous peuvent devenir son peuple s'ils se tournent vers lui et s'ils se soumettent à lui. Donc Dieu a promis des choses incroyables, fantastiques. Mais une fois encore, les Israélites et son peuple et l'humanité se sont détournés de Dieu. La première nation a désobéi. Et ensuite, une fois encore, les Israélites ont souffert sous la servitude. Notez-le. 1 Samuel chapitre 8, verset 3. Et ça, c'est intéressant. Voyez-vous, si quelqu'un agit mal, ce n'est pas pour vous une excuse pour suivre son exemple, ou bien pour dire, eh bien, si lui, il a mal agi, moi, je peux aussi mal agir, parce que Dieu lui a permis. Ça, c'est un mauvais raisonnement. Faites toujours ce que vous devez faire sans vous comparer aux autres. Notez-le. C'est intéressant parce que le peuple n'avait aucune raison d'agir comme il a agi, parce que les fils de Samuel ne marchèrent pas sur les traces d'Abraham. Ils se livraient à la cupidité, recevaient donc des présents et violaient la justice. Bon, c'est mauvais, c'est terrible, c'est affreux, mais pourquoi prendre leur exemple pour se détourner de Dieu? C'est une maladie que nous avons tous, vous savez, nous voyons quelqu'un mal agir, et parce qu'il n'est pas, entre guillemets, puni tout de suite, alors nous voulons prendre la même liberté. Mais c'est la folie. Ici, le peuple entier voit l'exemple des fils de Samuel. Alors, ils disent donc, nous voulons suivre leur exemple. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils vont vers Samuel. Ils disent, voici, verset 5, ils disent, voici tes fils. Et ils ne marchent pas selon les traces que Dieu a mises devant eux. Alors, établis sur nous, regardez ce qu'ils demandent à cause d'une injustice qu'ils ont vue à leur avis. Ils ont demandé, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Regardez-moi cette phrase. Dieu est à leur chef. Le Christ les bénissait. Les nations étaient maudites. Les nations souffraient. Les nations avaient des rois païens et des dieux païens en même temps. Alors, eux, les Israélites, disent à Samuel, écoute, nous voulons être comme les autres. Autrement dit, nous voulons être libres, libres comme eux, de faire ce qu'ils veulent faire et ne pas être punis. Commencez-vous à comprendre. C'est là, voyez-vous, le commencement des douleurs. Samuel, verset 6, 1 Samuel 8, 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel, évidemment, était un homme selon Dieu, a prié. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu a dit Samuel, verset 7, il dit, « Écoute, dit-il, écoute la voix du peuple, dit-il, dans tout ce qu'il dit, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. » C'est ça l'histoire de l'humanité, mes frères et mes sœurs. C'est ça ce qui s'est passé aux Israélites. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui à nous tous. Dieu a dit, verset 8, « Ils agissent à ton égard comme ils sont toujours agis depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » C'est Dieu qui parle. Voilà les prophéties. Nous parlons de prophètes, voilà une prophétie. Et c'est Dieu lui-même qui parle. « Écoute, dit-il leur voix, verset 9, donne-leur des avertissements, fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Là, je m'arrête encore quelques instants pour vous révéler une autre vérité selon la Bible. Dieu ne fait jamais rien avant de révéler sa volonté, avant de vous... Autrement dit, Dieu ne punit personne avant de révéler à la personne en question ce qu'elle fait qui n'est pas juste. Autrement dit, si vous vous intéressez à votre sort, prenez votre Bible, lisez la Bible et vous verrez la volonté de Dieu. Dès ce moment-là, vous avez le choix. Votre ignorance des lois divines n'est pas une excuse. Regardez maintenant ici, ça c'est aussi très très intéressant parce que Dieu montre au peuple ce qui va se passer. Écoutez, si vous avez des enfants, et si vous leur dites ce qu'il faut faire, ce qu'ils ne font pas, pouvez-vous dire que vos enfants ne savaient pas ce qui allait se passer? Vous dites aux enfants, écoute, ne fais pas ceci parce que tu vas te faire de tort. Et s'ils le font, est-ce votre faute? Peut-être vous auriez dû les élever mais mieux que vous l'avez fait, je sais. Mais le fait est que Dieu, dans sa sagesse, dans sa bonté, dans sa compassion, a donné et donne dans la Bible à nous tous les avertissements nécessaires pour éviter justement aux catastrophes. Ici, le peuple demande un roi comme ceux des autres nations. Alors, Dieu, dans sa bonté, je répète, il dit, il donne les avertissements. Verset 9, il dit, écoutez-il le roi, mais donne-leur des avertissements. Elle leur fait connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporte au peuple ce que Dieu lui a dit. Il dit, votre roi, dit-il, verset 11, régnera sur vous, il prendra vos fils, il les mettra sur les chars, autrement dit, les amènera en guerre. Et dit-il, il fera des chefs, des milliers des chefs, 50, verset 12, etc., je saute, il prendra vos fils, verset 13, vos filles, dit-il, pourront faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères, autrement dit, des gens qui se sont détournés de Dieu sans respecter les lois de Dieu et sans connaître la voie à suivre pour arriver au but. Il prendra, dit-il, verset 15, la dîme du produit de vos semences, de vos vignes, et donnera à ses serviteurs. Et ensuite, du verset 17, je saute parce que, voyez-vous, c'est pas ça mon sujet aujourd'hui, il prendra, dit-il, la dîme de vos troupeaux. Et vous-même, dit-il, vous serez esclaves. Ce sont des avertissements fantastiques. Écoutez, Dieu vous dit, voilà ce qui va se passer. On doit être insensé pour ne pas croire en Dieu. Voilà des prophéties. Et Dieu dit, verset 18, toujours 1 Samuel 8, il dit, « Alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi, vous-même vous vous serez choisi, l'Éternel ne vous exaucera point. » Ça, c'est un grand avertissement, vous savez. Autrement dit, vous avez là un choix entre ce que Dieu vous dit et entre ce que vous préférez. Quelle serait la réponse? Quelle a été la réponse du peuple? Donc, Samuel leur a dit ceci, et l'Éternel, il a reporté à Dieu ce que le peuple avait dit. L'Éternel a dit, verset 22, écoutez-il les voix, leur voix, établit un roi sur eux, et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous, dit-il, chacun dans sa ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont choisi un roi. Dieu avait dit que, alors, je ne vous écouterai plus. Et c'est la punition que la nation entière a subie. Pourquoi est-ce que je vous dis ceci? Parce que vous ne pouvez pas comprendre les prophéties, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, les petits prophètes. Vous ne pouvez pas comprendre, en moins de comprendre l'histoire de l'humanité. C'est cela, l'histoire de l'humanité. C'est cela que les prophètes ont dit dès le commencement. Et aujourd'hui encore, nous en souffrons car nous nous sommes choisis pour ainsi dire d'autres dieux qui règnent sur nos têtes. Nous nous sommes choisis des hommes et non pas Dieu lui-même. Revenons à Ésaïe. Je vous ai dit qu'Ésaïe a parlé de tout cela. Ésaïe a donné des détails. Ésaïe a décrit comment les choses allaient se développer en ce bon monde, comment les gens allaient souffrir, comment le Christ devait revenir, comment le Christ serait torturé, comment le peuple, autrement dit, allait maltraiter le Christ à son premier avènement. Bon, maintenant, supposons que vous voulez savoir quelle est aujourd'hui la réaction divine face à tout ce qui se passe. Dieu a donné, comme vous avez vu dès le commencement, des avertissements à tous. Et vous avez vu que dès le commencement, tous, que ce soit Adam, que ce soit les Israélites, se sont détournés de Dieu comme nous nous détournons aujourd'hui de Dieu. Alors que feriez-vous? Ésaïe commence justement son livre par, je dirais, la tristesse, entre guillemets, exprimée par Dieu. Notez-la, Ésaïe chapitre 1. C'est vrai, c'est très émouvant. Je prendrai aujourd'hui seulement Ésaïe chapitre 3, mais laissez-moi d'abord citer chapitre 1, versets 5 à 6, pour voir les sentiments de Dieu à l'égard de ce qui se passe. Il dit, « Quel châtiment nouveau, dit-il, vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. » C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Il dit, « De la plante du pied, verset 6, jusqu'à la tête, rien n'est bon en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions, plaies, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Et j'ouvre ici une petite parenthèse. Voyez-vous, si nous pouvons faire quelque chose en ce qui concerne la médecine, nous devons le faire. On peut bander une blessure. On doit prendre soin de soi-même. Tout ce que nous pouvons faire humainement parlant, nous le devons faire. Mais ce n'est pas la médecine qui nous guérit. Ce ne sont pas ces choses-là qui nous guérissent. Dieu seul peut nous guérir. Ces moyens dont on se sert peuvent être nécessaires s'il le faut. Donc, là encore, comme je vous ai dit aujourd'hui, il y a une limite en ce qui concerne où, jusqu'où peuvent aller les médecins et jusqu'où nous devons faire notre part et ensuite laisser Dieu faire la sienne. Pour la guérison, c'est facile. Ayez toujours en tête. Ce que vous pouvez faire sans transgresser la loi de Dieu, faites-le. Mais la guérison est toujours, la guérison totale est toujours une intervention divine, un acte de Dieu. Donc c'est Dieu, Dieu seul qui nous guérit, et non pas les médecins, et non pas les médicaments que nous prenons. Ça, c'est entre parenthèses. Ensuite, donc, après avoir parlé de cela, de la guérison, je voudrais maintenant prendre le chapitre 3 d'Ésaïe. Et ça, c'est mon thème. Autrement dit, j'ai pris tout ce temps pour venir à ce chapitre 3, parce que ce chapitre 3 décrit exactement l'époque dans laquelle nous vivons maintenant. Vous verrez une fois encore que Dieu déplore l'attitude des gens, de son peuple. Et il décrit l'attitude du comportement des nations aujourd'hui, comme à l'époque, les descendants d'Israël que nous sommes. Voyez-vous, ce matin, je lisais le journal et je me suis dit, c'est incroyable. Nous vivons, nous savons tous, à une époque difficile aujourd'hui. Il y a des guerres et des bruits de guerre, on parle de chômage, on parle de toutes sortes de grèves, que ce soit en Europe ou ailleurs, des incendies. Autrement dit, à travers toutes ces souffrances, nous sommes quand même, en tant que nation israélite, bien bénis. Prenez les descendants des anglophones, des francophones, ou bien des anglophones même, ou bien des francophones. Nous sommes, nous autres, israélites, plus bénis que n'importe quelle autre nation, plus riches, jouissons d'abondance de toutes sortes. Nous avons plus de prospérité que les autres nations. Nous avons une technologie plus avancée. Bon, cela nous rend-il plus heureux? Non. Nous sommes plus bénis que les autres, si vous voulez, pourtant nous sommes plus malheureux. Nous sommes plus, entre guillemets, maudits. Parce que nous nous sommes détournés de Dieu. À quoi bon avoir une prospérité dont vous ne savez comment vous jouir? C'est ce qui se passe aujourd'hui pour nous autres, Israélites. Aujourd'hui, je répète, les nations des descendants modernes d'Israël sont les plus bénies physiquement parlant et pourtant sont extrêmement malheureux parce que nous nous sommes détournés de Dieu. Regardez, jetez un coup d'œil autour de vous. Regardez les guerres, regardez les souffrances, regardez ce que nous avons fait de notre connaissance. Le Christ est venu nous montrer la voie à suivre, et pourtant, depuis 2000 ans, les gens suivent la mauvaise voie. Vous savez, il n'y a pas longtemps, quand on parlait de la Première Guerre mondiale, évidemment, nous autres, certains d'entre nous, nous avons juste entendu, d'autres n'ont jamais entendu parler. Il y a même des gens qui ne pensent pas que la Première Guerre mondiale a eu lieu. Eh oui. Et pourtant, c'était en 1914. Il paraît, justement, j'ai fait une petite recherche, que nous avons eu, durant la Première Guerre mondiale, presque il y a 100 ans à peu près, 160 millions de gens qui sont morts. 60 millions. Alors que nous n'avions même pas encore la bombe atomique. Sans parler des blessés. Dans la Deuxième Guerre mondiale, donc c'était 39 jusqu'en 45, vous rendez-vous compte que nous avions eu 70 millions de victimes de morts. Sans compter les blessés à nouveau. Alors voyez-vous, lorsque vous voyez ça, vous dites, où est Dieu? Non, Dieu est toujours là. C'est comme Dieu a dit aux Israélites, écoutez, voilà ce que vous vous amènerez vous-même. Des rois qui domineront sur vous, vous aurez des guerres, vous serez perdants et non pas gagnants. C'est ce qui se passe. Et ça, c'est, voyez-vous, la prophétie dont je vous parle. Les prophètes de Dieu à travers la Bible, et certainement Ésaïe, Ézéchiel et Jérémie, on parlait de tout ça avec beaucoup de précision. Prenez le temps de les lire, ça vaut la peine. Ce sont des prophéties qui sont réelles et qui vont avoir lieu. Ne méprisez pas l'Ancien Testament. Qui que vous soyez, prenez le temps de lire. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprendrez pas, ça je comprends. Parce que je suis passé par là, je pense encore qu'il y a des choses, certaines choses qui ne sont pas très claires dans la Bible. Mais d'une façon générale, je comprends la Bible, je comprends la volonté de Dieu, et je sais que si nous nous soumettons à Dieu, ses instructions dans la Bible, et aussi à travers les prophètes, je serai béni et nous serons bénis. Donc, regardez, je répète, où nous en sommes aujourd'hui. Après ces deux guerres mondiales depuis 100 ans, nous sommes dans une situation catastrophique, y compris les finances, y compris l'économie entière. Alors, la Bible parle, les prophéties parlent, le Christ a prophétisé lui-même qu'avant son retour, il y aura des jours, notez bien cela, Matthieu 24, verset 22, il y aura des jours qui, comme nous n'en avons jamais connu de pareil. Matthieu 24, verset 22, il dit, « Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » Autrement dit, personne ne serait vivant. Imaginez. Donc, voilà où nous en sommes. Nous vivons maintenant au temps de la fin. Et si ces jours n'étaient abrégés, lorsque la grande détresse arrivera, personne ne serait vivant. Mais le Christ dit à cause des élus. Les élus sont ceux qui obéissent à Dieu aujourd'hui, qui font sa volonté, qui préparent le chemin du retour du Christ. À cause de ces élus, dit-il, ces jours sont abrégés. Alors, où en sommes-nous toujours? Je répète. Si vous voulez la description de l'état actuel du monde, et pourquoi nous y sommes arrivés? Je vous ai déjà montré comment nous y sommes arrivés. Mais laissez-moi vous citer maintenant, d'une façon générale, comment Dieu décrit la situation actuelle à travers Ésaïe, le prophète, chapitre 3 de son livre. Notez-le. Le Seigneur, verset 1, Ésaïe, chapitre 3, verset 1. Le Seigneur, l'Éternel des armées, dit-il, va ôter de Jérusalem et de Juda, autrement dit, des nations que Dieu s'est choisies, tout appui et toute ressource. Autrement dit, nous qui avons reçu les bénédictions divines, nous en serons privés. Il y a toute ressource de pain et toute ressource d'eau, toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Alors que je vous parle, aux États-Unis, ce n'est pas question de famine pour le moment, mais il n'y a pas, dans certains États, dans certaines villes, il n'y a pas assez d'eau. Autrement dit, nous souffrons de la soif, et on prédit que d'ici quelques mois, si la pluie ne tombe pas, nous serons privés de boissons, c'est-à-dire d'eau. Alors, pouvez-vous vous imaginer, non pas seulement nous autres humains, mais aussi la végétation. Dieu vous dit que nous serons privés d'eau, nous serons privés de nourriture. Verset 2, Ésaïe 3, le héros est l'homme de guerre, le juge est le prophète, le divin est l'ancien, autrement dit, tout le monde. Il sera dans le groupe. Le chef des 50 et le magistrat, verset 3. Le conseiller, l'artisan distingué, l'habile chanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chef. Intéressant. Verset 4. Regardez autour de vous. Aujourd'hui, qui fait marcher le commerce? Les jeunes. Aujourd'hui, qui sont ceux qui dominent presque la culture, le cinéma, les livres, sont les jeunes, sont eux qui dictent parce qu'ils font marcher le commerce, pour ainsi dire. Ce sont les jeunes donc qui nous gouvernent en quelque sorte. Et les enfants dominent sur eux. L'autre jour, je lisais dans le journal que la plupart du temps, dans une famille, lorsqu'il y a des disputes, des difficultés, les enfants ou bien dictent leur volonté, ou bien ils sortent, ils quittent le foyer. Voilà. Eh bien, ils ne veulent pas rester ici et ils se perdent dans les rues, ou bien en mauvaise compagnie. Autrement dit, Dieu vous décrit dans Ésaïe chapitre 3 la situation actuelle. Jamais par le passé nous avons eu une jeunesse aussi disciplinée qu'aujourd'hui. Jamais par le passé nous avons eu des adultes qui ont été assez si incapables de contrôler ou d'enseigner leurs enfants. Verset 5, Ésaïe 3. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre. Chacun son prochain. Regardez-moi, nous en sommes. On ne peut pas vraiment se fier à quelqu'un. Même entre les familles, il n'y a pas d'entente. Vous savez que, d'après les journaux, la plus grande partie des meurtres commis en cette heure-ci, depuis, je dirais, l'an 2000, plutôt du XXe siècle, XXIe siècle, la plus grande partie des crimes, dis-je, est commis entre les membres d'une même famille. Eh oui, ce sont les statistiques. Autrement dit, les meurtres, les crimes, les assassinats sont commis entre les membres d'une même famille. Mari, femme, enfant, etc. Et Dieu le prédit. Autrement dit, ce qui se passe, voilà. Dieu avait déjà dit. Il dit, on aura versé, regardez-moi, le jeune homme, verset 5, le jeune homme attaquera le vieillard, l'homme de rien, celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle en disant, tu as un habit, sois notre chef, prends ces ruines sous ta main. Autrement dit, nous aurons bientôt une telle situation que les gens chercheront à avoir des gens qui peuvent les gouverner, qui peuvent les diriger. Et la plupart du temps, ceux qu'ils se choisiront ne seront pas capables de gouverner ni de conduire qui que ce soit dans la bonne voie. Mais voyez-vous, je ne prends pas mon temps pour expliquer en détail ce qui se passera, parce que franchement, ce que je cherche maintenant, c'est en gros, pour vous montrer ce qui se passe. Ce jour-là, verset 7. Ce jour-là, dit-il, même ces gens-là qu'on appellera en tant que chef sur nous, dira, je ne saurais être un médecin. Dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Autrement dit, on se choisira des gens qui ne sont pas capables de gouverner. Ensuite, on n'aura rien, pour ainsi dire, pour offrir. Jérusalem chancelle, verset 8. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Regardez où nous en sommes. Regardez comment les nations tâchent de contrôler une situation qui n'est pas contrôlable. Judas s'écroule. Regardez où sont les Juifs. Autrement dit, voyez-vous, ce sont des prophéties qui s'accomplissent devant nos yeux. Comment pouvez-vous dire que l'Ancien Testament ou bien les prophètes n'ont pas prédit ce qui va se passer? Dieu nous a toujours révélé sa volonté. Dieu nous a toujours révélé ce qui va se passer si nous nous détournons de lui. Nous avons vu dans 1 Samuel 8. Nous avons vu avec les autres nations auparavant, nous avons vu même avec Adam et Ève. Verset 8, toujours Ésaïe 3. Jérusalem chancelle, Judas s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. Vous savez, prenez le temps de lire ça de près. Regardez voir comment Dieu, dans sa bonté, nous montre ce qui va se passer, ce qui s'est passé, comment nous pouvons en sortir. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, les gens font la sourde oreille. Écoutez, moi je suis dans le ministère depuis presque 50 ans. Je prêche. Je dis aux gens ce que Dieu dit. Très peu vraiment font attention à ce que Dieu dit. Très peu font ce que Dieu dit pour changer leur existence ou leur vie. On blâme Dieu alors que Dieu n'est pas à blâmer. C'est comme si, je répète, vous, dans votre maison, dans votre foyer, vous ne faites pas votre devoir, vos enfants, votre femme, votre mari, tous ne font pas leur devoir. Comment voulez-vous qu'il y ait la paix entre vous? Comment voulez-vous qu'il y ait entente? Comment voulez-vous qu'il y ait du bonheur? Verset 9, toujours Ésaïe 3. L'aspect de leur visage, dit-il, témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, dit-il, car ils se sont. Car ils se préparent des maux. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de l'eau. Dans ta voix, je ne pense pas que cela. Si. Donc, malheur aux méchants, dit-il. Verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Des femmes dominent sur lui. Vous savez, là encore, je pense que nous, les hommes, nous avons maltraité les femmes et nous les maltraitons encore, nous sommes coupables. Et pourtant, les femmes ont leur fonction dans la vie comme les hommes ont la leur. Mais lorsque les fonctions se confondent, lorsque la femme ne fait pas sa part, ni l'homme la sienne, dès ce moment-là, il y a confusion. Alors, la conséquence, c'est quoi? Mon peuple a pour oppresseur des enfants, dit-il, des femmes dominent, verset 12, sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, tes gars, regarde-nous ensemble, mes frères et mes sœurs. Regardez les gouvernements, l'administration humaine, dans tous les pays. Franchement parlant, les chefs, les administrateurs, ne font pas leur part, sont coupables. En grande partie de ce qui se passe, ils se corrompent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente-t-il pour plaider? Il est debout pour juger, verset 13. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple, avec les chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. Vous savez, quand je lis ça, ça me fait quelque chose. Je peux voir déjà cette dégénérescence dans le monde, même depuis que je suis né. Certes, je ne suis pas très jeune, mais quand même, je vois dans les années que j'ai vécues la dégradation humaine. Ensuite, l'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple, avec les chefs. Vous avez brouté la vigne, etc. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit, dit-il, foulez-vous mon peuple? Maintenant, il parle au chef. Écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur l'Éternel. Ensuite, là encore, je ne vais pas trop m'attarder. Regardez voir autour de vous, regardez le comportement des gens, et ensuite la façon de s'habiller, la façon de se comporter, la façon de jouir, comment dirais-je, de la musique, de ce qui est bon, entre guillemets. Regardez voir ce que Dieu dit. L'Éternel dit, verset 16, ça c'est, je ne veux pas faire du commentaire parce que c'est à vous de juger si vous en êtes coupable ou non. L'Éternel dit, toujours Ésaïe 3, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. On parle maintenant de la femme, des jeunes filles et de la femme d'une façon générale. Et qu'elles marchent le cou tendu, des regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas. Et qu'elles font raisonner les boucles de leurs pieds. J'ai dit, je ne veux pas faire des commentaires. Vous n'avez qu'à lire et regarder comment Dieu décrit donc la vanité des femmes aujourd'hui. Je ne parle pas de ce qu'on doit faire qui est juste de faire. Je parle de vanité et de ce comportement qui n'est pas toujours juste devant Dieu. Le Seigneur, dit-il, rendra, car la punition, le châtiment qui s'ensuit, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Vous savez, pour un homme, être chauve, c'est terrible. Pour une femme, c'est encore pire. Donc, ces femmes-là qui cherchaient, qui cherchent aujourd'hui à se faire belles par des moyens artificiels, mettons, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour-là, dit-il, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets, les croissants, les pendants d'oreilles. Autrement dit, elles seront dépouillées, ces femmes, de tout ce qu'elles possèdent, des bracelets, des voiles, les diadèmes, verset 20, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes de serviteurs, de senteurs, etc. Voyez-vous, lorsque vous lisez ça, honnêtement, vous devez dire, où en suis-je? Homme ou femme, est-ce que je me laisse emporter par la vanité? Heureusement, voyez-vous, les choses ne vont pas s'arrêter là. Je n'ai pas assez de temps pour développer le sujet, mais Ésaïe ne parle pas seulement de ses prophéties dans Ésaïe 3. Nous avons vu Ésaïe 1 où il déplore ce qui se passe. Ésaïe 3 où il décrit à peu près la situation moderne. Mais le prophète Ésaïe, donc, comme vous avez vu, parle du passé, du présent. Mais maintenant, avant de terminer, je voudrais voir juste passer quelques minutes avec vous pour parler comment Ésaïe, le prophète, voit l'avenir. Et c'est ça qui compte. Voyez-vous, ce chapitre 3, entre le chapitre 1er que je vous ai cité, le chapitre 3 que je viens de vous parler brièvement, il y a un autre chapitre, chapitre 2. Ésaïe 2 vous promet justement le merveilleux monde à venir qui va suivre, parce que Dieu va exécuter son plan de salut. Ésaïe chapitre 2, la prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Voyez-vous donc les deux, les Israélites. Il arrivera dans la suite des temps. On parle maintenant de l'avenir, lorsque le Christ sera ici. Que la montagne, le mot montagne dans l'Ancien Testament, dans la Bible, souvent désigne gouvernement. La montagne donc de la maison d'Israël sera fondée sur le sommet des montagnes des autres nations. Autrement dit, le gouvernement de Dieu sera au-dessus de tous les autres gouvernements. Qu'elle s'élèvera, donc, la maison de Dieu, au-dessus des collines. Les collines sont des petites nations, bien des petites administrations, et que toutes les nations y afflueront vers le Christ. Des peuples s'y rendront en foule. Des peuples, tous, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit en Europe, des peuples se rendront en foule, diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel. Autrement dit, là où Dieu est, là où est l'administration, le gouvernement de Dieu. À la maison de Dieu de Jacob. Tiens, on arrive, on revient à Jacob. Cette maison dont je vous parle, le père des 12 tribus dont je vous parle, alors qu'il nous enseigne ses voies, cette Bible nous enseigne la voie de Dieu. Cette Bible nous enseigne comment Jacob, Abraham, Isaac ont obéi à Dieu. Comment Abraham a fait la volonté de Dieu. Autrement dit, Dieu nous ramène en arrière en quelque sorte pour nous montrer la voie à suivre. Car de Sion sortira la loi. Sion, c'est là où le gouvernement de Dieu sera établi. Donc, de Sion, du chef, autrement dit du centre même où le Christ sera, la loi sortira. Comme elle devrait être aujourd'hui, qui n'est pas malheureusement parce que les gens rejettent la Bible, parce que les gens rejettent les prophéties. Ensuite, des peuples s'y rendront en foule. Ils diront, venez, montons à la montagne d'Éternel, à la maison de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de Dieu. Le Christ sera le juge, verset 4, des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Voilà l'avenir qui est devant nous. De leur glaive, ils forgeront des royaumes. Hélas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. De leur lance des serpes, les nations ne tireront plus l'épée l'une contre l'autre. L'on n'apprendra plus la guerre. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, nous savons ça. Mais avec cette bonne nouvelle, toujours présente dans notre esprit, nous devons être reconnaissants à Dieu. Nous devons chaque jour nous tourner vers Dieu, dire « Dieu, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, je vais faire ta volonté, je vais observer tes lois, je vais faire ma part afin que mon prochain, qu'il soit dans ma maison ou non, qu'il soit mon ennemi ou non, qu'il soit quelqu'un qui ne connaisse même pas la Bible, que je puisse lui être utile, que je puisse être à mon prochain, quelle qu'elle soit, une lumière. » Et la Bible, ici, je termine donc Ésaïe 2, chapitre 2, verset 5. « Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » J'espère que vous avez un peu compris comment étudier la Bible. Ayez ça en tête. Lisez le chapitre entier, mais ayez ce que Dieu vous dit. « Venez marcher à la lumière de l'Éternel Dieu. » Faire ta volonté. Je vais t'obéir en toutes choses. Ne pas prétendre à trouver des choses dans la Bible qui se contredisent pour vous éloigner de Dieu. Beaucoup de gens ont perdu la foi. Vous savez pourquoi ? Parce que ils veulent faire les choses à leur façon, et la façon d'arriver à se convaincre eux-mêmes, c'est de trouver des contradictions dans la Bible. Prétendre que, par exemple, la loi n'est plus nécessaire. Prétendre que la Bible se contredit. Prétendre que Dieu fait exception de personne. Ce sont des choses de ce genre qui vous éloignent de Dieu. Mes frères et mes sœurs, pensez à une chose. Dieu vous a créé parce qu'il vous aime. Dieu vous a créé parce qu'il veut que vous arriviez au but. Dieu vous a créé parce qu'il veut que vous ayez foi en lui. Le seul être en ce bas monde qui puisse vous aider, c'est Dieu. Le seul être qui puisse vous mener vers la vie éternelle, c'est Dieu. Le seul être qui puisse vraiment vous guérir, c'est Dieu. Et le seul être qui peut ouvrir votre esprit, c'est Dieu. Et Dieu, je répète, veut faire cela pour vous parce qu'il vous aime. Dieu est amour. C'est la base même de tous les enseignements bibliques. Je répète, c'est pas que je continue ce sujet la prochaine fois, je ne sais pas. De toute façon, rappelez-vous ce que Paul a dit. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Le mot amour est ce qui a été traduit dans certaines Bibles comme charité, c'est la même chose. C'est l'amour sur le plan divin. Et la foi dans votre esprit est peut-être souvent confuse avec l'espérance. Mon intention était de vous montrer aujourd'hui qu'il y a une différence entre l'espérance qui est nécessaire, nous devons avoir l'espérance, et la foi qui est indispensable pour arriver au salut. À vous le choix. À vous d'étudier Avant de vous mettre à genoux devant Dieu et dire « Dieu, je veux comprendre davantage. » Si vous avez pris note de ce que j'ai dit, eh bien, lisez, relisez. Si vous n'avez pas pris note, ça n'a pas d'importance, relisez Hébreux 11. Lisez Romains 4. Ainsi, voyez-vous, ce faisant, vous pouvez vous approcher de Dieu, et puis vous lisez la Bible, puis vous augmentez la foi. Car la Bible dit dans Romains 10, verset 17, « La foi vient par l'étude de la parole de Dieu ».